C'est 23.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Yannick Bouchard.
Notre prochain invité connaît toute une saison avec l'Avalanche du Colorado. Hier encore utilisé un peu plus de 28 minutes de jeu, malgré la défaite des siens en tir de barrage. L'Avalanche qui était aux prises avec les Rangers hier, demain contre les Prédateurs de Nashville. Et on est au lendemain de son anniversaire. Jonathan Drouin est avec nous, amateurs de sport. Bonsoir Jonathan et bonne fête.
Bonsoir, ça va bien?
Ça va très bien. Et toi?
Ouais, ça va super bien.
Good.
Malgré la défaite, ça va bien.
Jonathan, comment vis-tu cette année-là avec l'Avalanche? T'es sur le point peut-être de battre tes meilleures années de production.
Ouais, non, je me sens super bien. Je pense que au début, quand je m'étais posé la question, je pense que l'adaptation de nos Colorado, l'équipe, le staff, les employés, tout le monde est vraiment gentil. Fait que c'était une adaptation assez facile. Mais de ce côté-là, je pense que ce temps-ci, surtout, j'ai une super belle confiance. J'aime la façon que ma saison a été. Ça a été un peu plus au ralenti au début de saison, mais quand c'est des nouveaux systèmes, ça fait 6 ans que tu joues dans une autre équipe, t'arrives ici, c'est nouveau. Fait que ça m'a pris un peu de temps, mais là, je suis quand même parti, je me sens bien en confiance.
Je regardais le match dimanche après-midi. Bon, hier, évidemment, j'anime le soir, fait que je peux pas toujours regarder les matchs en direct, mais Dimanche, j'ai eu l'occasion de voir le match. Écoute, c'était tout un comeback. Deux jeux semblables. Nathan, ta passe, tire sur réception. Tu lui rends l'appareil un peu plus tard. Et quand je t'ai vu marquer le but en prolongation, puis je t'ai vu comme d'un geste spontané, là, tu sais à quoi je fais allusion, Joe, là, tu sais, quand ton but, là, dis-moi comment tu te sens à ce moment-là, après avoir couronner la remontée des tiens là, dimanche après-midi?
Non, c'est le fun parce qu'on perdait 4-0. Quand tu es capable de revenir dans n'importe quelle équipe, dans n'importe quel match comme ça, je pense que c'est spécial. Fait que, digne de faire 4-4, on avait une super belle énergie sur le banc, on avait une belle énergie sur la glace. Fait que de marquer le gros but là en overtime, je pense que tout le monde était vraiment content. Ça va donner un bon boost de confiance pour ce qui s'en vient aussi. Je pense que quand tu peux marquer un gros but comme ça en prolongation, ça t'aide beaucoup pour la confiance. Puis, tu as gagné le match aussi, comme j'ai dit, on parlait 4-0, faire un comeback comme ça, c'était gros. Là.
Tu sais qu'on parle encore des années plus tard de la fameuse remontée du Canadien contre les Rangers, tu sais, Kovalev qui avait perdu le casque. Joe, je sais pas si tu peux me mettre ça en perspective. Au Colorado, là, c'était-tu quelque chose de comparable, votre remontée dimanche?
Ouais, ça ressemblait. C'est sûr que le Canadien, c'était 5-0, c'est en troisième, je pense, le premier but. Je me rappelle bien, mais je pense que ça ressemblait un peu. Je pense qu'on a marqué, il restait 2 minutes puis 30 secondes. Fait que ces deux buts-là, le monde n'en parle pas. Ils parlent de moi, puis Nathan, puis nos buts, mais les deux buts en fin de deuxième de Trennan puis Drain, ça nous donnait du momentum pour entrer en troisième période. Je pense qu'on va entrer dans la chambre pour savoir qu'on avait une chance. On avait deux buts maintenant, pas 4 buts à faire, puis ça nous donnait vraiment une grosse chance de gagner ce match-là.
Tu nous as appris à travers ce que tu as vécu à Montréal qu'il y a une question qui peut être banale, mais qui est importante quand on dit à quelqu'un comment ça va, comment tu vas. Jonathan, je me permets de te demander, tu sais, au plan carrière, au niveau de bonheur, satisfaction, avec ce que tu vis cette année, là, ce retour au sommet, comment tu vas?
Ah, je vais super bien. Honnêtement, ça m'a fait un gros bien de partir de Montréal un peu. Je pense que mes années étaient un peu terminées à la fin, là. C'est plat, ça n'a pas marché de la façon que j'aurais aimé, puis le management non plus, mais pour moi, je me sens super bien, ma famille va bien, c'est un super fun groupe qu'on a ici, je pense que c'est des super bons gars, les coachs sont vraiment gentils aussi, fait à date, je suis vraiment content de la décision que j'ai prise de venir au Colorado pour une année, ça me porte fruit aussi, je pense que c'est mon style de jeu, la façon qu'on joue, comme tu reviens à ta question, je me sens très, très, très bien, puis bonne humeur.
Ben, on est vraiment tellement content et sincèrement content pour toi. Et c'est beau à voir. Moi, te dire une affaire dimanche, tu vois, on rejoint les audios de la description au début, là. C'était tout un show. C'était quelque chose à voir. Dis-moi, t'as fait allusion toi-même, sans même que je t'en parle, là, début de saison. Ben, c'est sûr qu'une adaptation, je parlais de Pierre-Luc Dubois avec Luc Robitaille l'autre soir, puis tu sais, tout le monde, puis Luc a été lui-même échangé à quelques reprises. Ça prend une adaptation. Qu'est-ce qui t'a permis, comment et qu'est-ce que t'as senti qui t'a permis d'aller chercher la confiance du coach Jared Bednar pour être utilisé comme tu l'es maintenant depuis des mois, là, puis on regarde plus en arrière, là.
Ouais, je pense que ça va avec mon jeu défensif. Je pense qu'on en a parlé au début de saison. Des fois, je n'étais pas vraiment la bonne position. Ça va avec l'adaptation des systèmes aussi. Mais quand j'ai vu, je pense qu'on a. La chose va vraiment se respecter de Jared Bednar, c'est qu'il m'a vraiment aidé au début, que ce soit des vidéos, un compte un ou des petits détails qu'il me montrait sur le tableau. Il prenait beaucoup de temps pour m'aider. Je pense que ça m'a vraiment aidé dans le futur. Bien honnêtement, c'était. C'est super d'avoir un coach comme ça de sa part au début parce que c'est une adaptation.
Je veux parler de ta complicité, ton amitié avec Nathan MacKinnon. Je me trompe ou vous êtes demeuré amis, là, même en jouant pas dans la même ville après les Moussettes d'Halifax. Puis entre ce que tu souhaitais qu'il se passe en le retrouvant au Colorado, puis de la manière que ça s'est passé, comment sa présence, sans nécessairement toujours jouer avec, mais tu sais, de retrouver ton vieux complice, comment ça t'a aidé à renouer avec le niveau de jeu que tu présentes cette année?
Ouais, ça m'aide. Je pense que c'est un joueur comme au niveau de Nathan. C'est un des meilleurs joueurs de la nationale, c'est pas le meilleur dans mes yeux. Puis quand un gars comme ça, puis je l'ai dit plusieurs fois cette année en anglais, que quand les deux travaillent comme ça dans le gym, sur la glace, ils font du temps d'extra, ils travaillent sur leur talent, sur les petits détails qu'ils font, je pense à ça. Tout le monde dans l'équipe ici, je pense qu'on est dans le même bateau de ce côté-là où on essaie de suivre les McCarr, les McKinnon. Quand tu pratiques contre des gars comme ça, ça t'améliore. Je pense que c'est une chance unique de pratiquer avec des gars comme ça. C'est sûr qu'on ne joue pas contre maintenant, mais juste en pratique, avoir le niveau de jeu qu'on a, je pense que c'est vraiment ça nous aide pour les matchs, ça nous aide à s'améliorer à chaque jour. Mais juste d'avoir un gars comme Nathan aussi au début ici, c'était le fun. Même les connaître, de savoir avoir quelques visages familiers pour aider l'adaptation. Puis c'est m'ont vraiment aidé au début.
Tu sentais-tu que tu avais quelque chose à prouver, puis à qui, à toi-même, à ton vieux complice Nathan, ou tu sentais-tu que tu avais quelque chose à prouver cette année, Jonathan?
Ouais, non, je pense à moi-même en premier. C'est à moi de mettre l'effort. J'ai mis beaucoup d'efforts cet été à être dans une super belle condition. J'ai pas eu de blessure à fin de l'année dernière. Fait que j'ai eu une super belle été, puis juste, c'est comme tu as dit aussi, c'est pour Nathan aussi. Nathan a poussé pour que je vienne ici. Le management me voulait, mais je suis avec Nathan poussé beaucoup pour que je signe ici. Fait que tu veux pas décevoir personne. Je pense que c'est une des premières choses qui me venait en tête. Je voulais pas décevoir le management ici qui vont signer. Je voulais pas. Même chose pour Nathan. Je pense que d'avoir un gars comme ça, ça m'a aidé beaucoup. Ça m'a ramené aussi au niveau que j'étais avant un peu à Tampa puis mes premières années à Montréal. Je dois beaucoup de crédit à Nathan et le staff ici.
Ben, clairement, tout ça t'a ramené, t'a tiré vers le haut. Y a-tu un moment, un jeu, un match, Jonathan, cette année, là, tu sais, après des débuts puis l'adaptation où tu t'es dit, là, I'm back, je suis revenu, là.
Oui? Je sais pas si c'est un moment comme ça, je peux pas te nommer un moment ou un chiffre ou ce qui est arrivé, mais il y a eu un déclic après, je pense, 10-15 matchs que, c'était rendu un instinct, là. C'était plus de penser où j'étais sur la glace, je suis à la bonne position, c'était vraiment, je savais les systèmes, je savais qu'est-ce qu'on faisait. C'était juste de jouer avec l'instinct que j'ai, puis faire confiance à mon talent, faire confiance à ma vision du jeu, puis ces choses-là, puis c'est avec le temps de glace que j'ai, c'est super le fun, t'es tout le temps dans le match, c'est tout le temps impliqué, je pense qu'on embarque souvent pour des bisous offensifs, ça donne beaucoup de chance.
Il y a eu des échanges à la date limite des transactions, quelques nouveaux venus, puis comme je le disais tout à l'heure avec ton temps de glace, je sais pas si tu t'es posé des questions comme n'importe qui dans un club quand il y a du nouveau monde, tu dis oups, est-ce que mon temps de glace va non, et là t'es vraiment dans le top 6, t'es là, t'es sur le jeu de puissance, t'es à toutes les sauces, ça l'a en rien ébranlé ton statut, puis j'imagine que ça, je sais pas si vous sentez déjà que eux autres aussi doivent s'adapter, que tu sais, sont encore en train de s'acclimater, puis jusqu'à quel point ces acquisitions là, tu penses font de vous autres une meilleure équipe là, à quelques semaines des séries, Jonathan?
Oui, avec les joueurs qu'on est allé chercher, je pense que tu vas regarder le défenseur Wojciech Walker, je pense que c'est beaucoup d'équipes qu'ils voulaient, qu'on a été capable d'aller chercher ça. Ça nous aide vraiment, il est super bon, c'est un défenseur de deuxième paire, juste notre troisième paire en ce moment, je pense qu'il y a tellement de potentiel, puis il est super bon offensivement. Tu vas chercher un gars comme Middlestat, il nous manquait un peu un deuxième centre. On a fait une grosse échange, on a perdu un super bon défenseur en Byram, on a fait un super bon centre. C'est les deux autres gars, c'est des gars de troisième, quatrième ligne qui travaillent vraiment fort, qui frappent, qui vont dans les coins. Ça nous a vraiment amélioré, mais je pense que ça nous a vraiment balancé. On a plus, comme on dit en anglais, on a du depth. On a des joueurs maintenant qui peuvent jouer à beaucoup de positions. Je pense que ça nous a vraiment aidé, surtout en série, là, quand on regarde les grosses équipes. Ils ont quatre lignes qui roulent à chaque soir. C'est pas 28 minutes, c'est pas 27 minutes des soirs que ça va arriver, mais c'est bien balancé, je pense, à l'équipe maintenant. Là.
Et tu excité à l'idée de retourner en série, surtout avec un club comme l'Avalanche qui a gagné il y a 2 ans.
Ouais.
Ça doit être tout un feeling.
Ouais, non, c'est le fun. Tu le sens. Ça fait une semaine ou 2 semaines là, maintenant que les matchs sont plus intenses. Il y a des équipes qui se battent pour les séries, il y a des équipes qui se battent pour faire une première dans la division. On est pas mal dans ce bateau-là. C'est la centrale, c'est bien serré avec Dallas, Winnipeg, puis nous. Chaque match c'est un match de 3-4 points quand tu gagnes un match de 2 points. Puis c'est comme je dis, on se prépare, c'est le fun d'avoir le feeling de te retrouver. Tu sais que ça s'en vient, les séries, dans quelques semaines. On se prépare pour ça. Puis on travaille sur tous nos petits détails pour améliorer notre match pour les séries.
Je sais pas si tu regardes le Canadien du coin de l'œil. Bon, ils vous ont affronté plus tôt cette semaine. Belle victoire pour eux avec le retour de Martin. T'étais revenu à Montréal. Je pense que t'as eu un superbe accueil du public montréalais. Mais je sais pas si tu regardes du coin de l'œil, mais tu trouves-tu que ça évolue bien? Tu sais, quand tu regardes Nick, puis Yuraï, puis l'équipe, là, tu penses-tu que ça va aboutir quelque part? Oui.
Ouais, je pense que, surtout avec Martin, je pense que l'année passée, ça a été un, parce que moi, j'ai adoré mon année, mais ça n'a pas été bien statistique. J'ai pas eu une super belle année de statistiques, mais je pense que j'ai vraiment appris avec Martin. Je pense que, l'équipe déjà cette année, c'est, ils ont pris un grand pas vers l'avant comparé à l'année dernière. T'as regardé Uri, une super belle saison maintenant. Il y a l'air à avoir confiance avec Nick. C'est une équipe aussi qui sont dans chaque match. À chaque fois, je regarde l'application NHL sur les matchs. C'est une équipe au bas de classement, mais c'est une équipe qui va être très bonne dans le futur, qui a vraiment de potentiel. Je pense surtout, comme je l'ai dit avec Martin, là, Martin est super intelligent et capable d'aider beaucoup de joueurs.
As-tu connecté avec Martin, même si ça n'a pas débloqué comme tu aurais souhaité autant sur la glace?
Non, ouais.
Comment tu as connecté avec?
Ouais, je pense qu'on voit la game de la même façon un peu. Il voyait des choses que lui faisait dans le temps que je faisais. C'est plate, ça n'a pas marché du côté, comme je l'ai dit, du côté statistique, de ce côté-là, mais l'année dernière, c'est pas une année que j'ai lancé une poubelle, mais j'ai appris beaucoup de choses avec Martin. J'ai eu beaucoup de crédit aussi à m'avoir aidé. On a fait beaucoup de vidéos, un avec l'autre, juste à regarder des choses de d'autres joueurs, des joueurs des jeux que je faisais moi, des joueurs que je couchais à point. Je pense que Martin, c'est un super coach, puis c'est un super coach individuel aussi pour aider chaque joueur avec leur atout et leur talent.
En terminant, Jonathan, on dit que t'es l'aubaine de l'année dans la Ligue nationale, considérant le contrat, évidemment, que t'as signé avec l'Avalanche et la production que t'as amenée à l'équipe. Penses-tu déjà un petit peu à la suite des choses, à l'après-saison, au prochain contrat, ou as-tu en tête à ça, non?
Non, pas vraiment. Je pense que c'est pas un joueur qui pense que c'est assez statistique, son prochain contrat dans cette équipe-là. Maintenant, je peux pas avoir les séries. On a une chance de gagner une coupe cette année, fait que... Chaque fois, tu as une chance de gagner une coupe cette année, tu mets tout ton effort là-dedans, puis t'essaies de tasser toutes les distractions de côté. On va s'asseoir après l'année et après les séries. Bon, on checkera ce qu'on veut faire avec tout ça.
Ben, Jonathan, je peux te dire une chose. Il y a des milliers d'auditeurs, d'auditrices qui sont super contents de t'entendre ce soir leur parler à travers l'entrevue que tu nous accordes. Bonne fin de saison, puis let's go l'Avalanche. Vous êtes beau avoir joué, vous donner tout un show. Quand ça se met à tourner, là, c'est quelque chose à voir.
Ouais.
Merci beaucoup, ouais. Joe.
Merci, Mario. Bonne soirée.
Au plaisir. Bonne soirée. Et joyeuse Pâques.
Merci beaucoup.
C'était Jonathan Drouin, en direct du Colorado.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
De la boxe au Casino de Montréal, jeudi prochain, c'est le grand retour de Kim Clavel. Le deuil est terminé. Vous avez lu sans doute quelques-unes des entrevues qu'elle a accordées ces dernières semaines. On a le grand plaisir de l'accueillir avec nous en studio ce soir au 98.5. Salut Kim!
Bonsoir tout le monde, ça va bien?
Ça va très bien. Et toi, qu'est-ce que ça veut dire ça, le deuil est terminé?
Ça veut dire qu'on regarde plus en arrière, on regarde en avant. J'ai hâte de boxer le 4 avril. J'ai eu un bon camp d'entraînement. Puis, tu sais, moi, je suis une fille bien émotive. Mes émotions, je les vis. J'ai pris le temps d'y vivre. Puis là, je suis passée à autre chose. Je suis prête pour le futur.
Et qu'est-ce que tu vois à l'horizon quand tu regardes en avant, Kim?
Mais pour l'instant, je vais essayer de me concentrer à court terme sur le combat du 4 avril. Mon combat contre Farah, c'est un combat qui est important. C'est un retour après une défaite serrée. C'est un combat que je veux bien performer, donc je le prends à cœur. Tous les combats sont importants, mais c'est sûr que l'objectif reste le même. Je veux redevenir championne du monde, mais pour ça, ça prend des victoires, faut se reclasser. Puis je vais tout faire pour pouvoir retourner on the top of the world.
Ben, parle-moi de ça. Donc, les ambitions sont les mêmes. As-tu retrouvé les mêmes ambitions ou ça a changé tes ambitions? Je sais que tu veux regarder en avant, mais ce que tu as vécu, le deuil que tu as eu à faire, ça change tes perspectives d'avenir?
Non, c'est... Des fois, c'est difficile parce que j'avais l'impression d'être si près du but. En ce moment, j'ai l'impression d'être à la fois si loin. Mais on descend jamais en bas de l'échelle parce que tout ce que j'ai fait, j'ai des acquis là-dedans. J'ai appris énormément là-dedans. Là, je vais livrer mon 20e combat. C'est de l'expérience en banque. Ça va me servir. Puis tout ça, au final, ça va faire de moi une meilleure boxeuse. Donc, c'est un petit peu plus long que prévu. Mais c'est correct. Je suis en santé. J'ai une bonne équipe en arrière de moi. Puis j'ai la motivation qui est encore là, la passion pour la boxe est toujours là. Donc, c'est comme ça que je vois ça pour l'instant.
T'es maintenant, là, on pourrait dire, la pierre d'assise, le visage du groupe Yvon Michel, de Jim. Est-ce qu'en ce sens, en attendant, parce que Yvon l'a dit dans une entrevue récemment, là, que quelque part, ben, il est à la recherche de nouveaux talents pour
se donner
un nouveau souffle. Comment le vois-tu? C'est gratifiant. En même temps, y a-t-il une pression de te sentir que si tu boxes pas, ben, la compagnie, ça roulera pas bien, bien fort si Kim ne boxe pas?
C'est gratifiant, c'est certain. Oui, c'est sûr que c'est une pression aussi en même temps, mais je suis habituée de vivre avec cette pression-là. Je pense que j'ai une bonne base solide. Le groupe Yvon Michel sont là pour moi depuis des années. Donc, c'est sûr que j'ai envie d'être là pour eux aussi. C'est des gens en qui j'ai confiance, qui Yvon sait comment construire une carrière, puis tout ce qu'il m'a promis, il me l'a toujours offert. Donc, c'est un plaisir pour moi de les représenter.
Ta prochaine adversaire, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le défi qu'elle va te présenter, Farah El-Boussari?
Farah, c'est une fille qui vient de l'Espagne. C'est une Marocaine de naissance. C'est une fille qui est plus lourde physiquement. Habituellement, elle boxe dans les 112 livres, 114 livres. D'après moi, elle va vouloir utiliser son physique. Elle a quand même beaucoup d'expérience. Elle a boxé contre plusieurs bonnes boxeuses. Elle a une série de 3 victoires dans ses derniers combats. C'est une fille qui est assez baveuse, qui est coquille. On a regardé des vidéos, elle sort la langue, elle baisse ses mains. T'sais, elle a quand même une petite arrogance. Fait que je pense que ça devrait faire un bon spectacle au Casino de Montréal le 4 avril.
T'as-tu hâte d'y couper le sourire? Ou...
Ben, j'espère que si elle sort sa langue, je vais y couper.
C'est très spécial quand même. Hein, mais donc, stratégiquement, est-ce que tu as retravaillé des choses? C'est de reprendre ou te laisser après ta défaite qui était difficile à encaisser. Là. T'sais, au niveau de ta préparation, y avait-tu des remises en question? C'était tellement une belle performance ou c'était juste de dire, OK, on reprend juste le collier, là?
Je pense que j'ai eu énormément d'acquis dans le camp d'entraînement contre Bermudez, puis on a livré une belle performance, puis on a regardé le combat, puis si c'était à refaire, on referait probablement la même chose parce que ça frôlait. C'est jamais parfait, mais on l'a frôlé, puis le plan de match, je l'ai suivi. Puis après ce combat-là, j'ai eu de la peine, ça a été difficile, mais j'ai pas perdu confiance en mes moyens, ni en mon équipe, ni en personne, parce que ce combat-là, j'ai livré une bataille contre la meilleure au monde, puis c'était extrêmement serré. Je le sais que je fais partie de l'élite, fait que j'ai pas besoin de me remettre en confiance. Je suis en confiance, j'ai juste besoin d'être active, de gagner mes combats, pour retourner en combat de championnat du monde.
Qu'est-ce qui a été le plus bénéfique dans le but de te ressourcer dans les dernières semaines? Là? Qu'est-ce que tu as vécu pour te permettre de dire vraiment là, de passer à autre chose?
Ben, après mon combat, j'ai eu envie de complètement sortir de la boxe un certain temps, de retourner à la ferme familiale, de jouer avec mon cheval. J'ai fait un voyage en Alberta avec mes amis, faire autre chose. Je suis retournée travailler comme infirmière auxiliaire dans les CHSLD, à l'hôpital de Joliette où j'ai travaillé durant 7 ans en maternité. Juste de me démontrer que Kim, la boxeuse, c'est pas juste une boxeuse, elle est plein d'autres choses aussi. C'est ce que j'avais envie de me rappeler. Puis ça me fait du bien d'être fière de moi pour autre chose que de la boxe.
Ah, oh, c'est le fun.
Ouais.
Et qu'est-ce qui te rend le plus fière de toi à part la boxe?
Je pense ma grande résilience. Aujourd'hui, tu sais, quand je vois tout ce qui s'est passé dans la dernière année, dans ma vie en général, je pense que la vie m'a construite solide pour vivre des épreuves. Je pense que ça fait de moi une personne résiliente. À chaque fois, des fois, je comprends pas pourquoi que les choses arrivent. Puis au final, à un moment donné, je mets les pièces du puzzle ensemble puis je réussis à faire des liens. Ça, c'est arrivé pour telle raison. J'essaie d'en sortir gagnante à chaque fois. Puis les combats, c'est pas toujours juste dans le ring, c'est à l'extérieur aussi. Puis il faut apprendre de chaque épreuve. Puis je pense que c'est ce qui fait ma force un peu.
Puis t'aimes ça donner un sens aux choses aussi, si je comprends bien, là. Tu sais, pour mieux les assimiler, mieux les intégrer.
Oui, en premier, c'est un petit peu difficile de trouver le sens, mais un coup que je le trouve, j'accepte ouais. Mieux les choses.
Est-ce que t'es capable d'identifier la plus grosse épreuve que t'as eu à traverser?
Je dirais que ma défaite contre Bermudez, ça a été très, très difficile au niveau professionnel. Pour ma carrière de boxe, j'ai l'impression que ça a été difficile, mais en même temps, j'ai pas perdu de valeur après cette défaite-là parce qu'au contraire, les gens savent que je fais partie de l'élite mondiale. Mais sinon, dans ma vie, tu sais, j'ai vécu toutes sortes d'épreuves, mais tu sais, pas rien que j'ai été traumatisée ou quoi que ce soit. Là.
Quand tu dis la boxe, c'est pas juste le combat sur le ring, il y a le combat en dehors du ring. À quoi tu penses quand tu parles de ça?
Mais tu sais, c'est de gérer le tout autour d'un combat. Tu sais, quand tu deviens un athlète, oups, tranquillement, tu deviens une figure publique. J'ai fait Big Brother, les gens me reconnaissaient. Ça vient avec une pression qu'il faut apprendre à gérer. Ça vient avec les gens ont des attentes, mais aussi toi, tu te mets de la pression. Fait qu'il faut que tu apprennes à gérer tout ça, puis bien t'entourer avec des gens qui peuvent t'aider, puis de reconnaître les gens qui sont là pour les bonnes choses autour de toi.
OK, quand tu dis te mettre de la pression, ça vient, tu t'étouffer? Parce que, tu sais, des fois, notre juge le plus sévère, c'est souvent nous-mêmes. Mm-hmm. Puis j'imagine que t'es tellement perfectionniste que t'es un peu comme ça. Fait que c'est-tu comme de quoi que fallait que tu te dénoues? Y a-tu de quoi qui te ligote dans ces sentiments que ça amène, ça?
Maintenant, non. Maintenant, je sens que je suis un peu comme un poisson dans l'eau. Mais à un certain moment, quand c'est devenu un peu plus gros, ma carrière, quand je suis devenue championne du monde, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai eu peut-être un petit peu plus de difficulté à gérer cette pression-là. Le combat de Plata, tout ça, tu sais, ça avait été gros, ma place belle, premier combat d'unification, c'était beaucoup de choses en même temps. Mais à ce moment-là, j'ai été chercher de l'aide avec un psychologue sportif. Tu sais, je pense que c'est important de s'entourer de professionnels qui ont les outils pour pouvoir t'amener à un autre niveau parce que c'est souvent oublié, mais le mental est tellement important là, dans la boxe. On est en forme, on s'entraîne, on fait de la préparation physique, des plans de match, mais le mental est super important aussi.
Je sais pas c'est quoi la clé du succès par rapport à cette relation-là avec nous-mêmes dans un monde de compétition où on vise l'excellence. On n'est pas tous des athlètes, mais quelle est la clé la plus précieuse que tu as obtenue à travers ce processus-là avec un psy? Puis, je veux dire, comment te libérer de ces sentiments-là et pouvoir t'épanouir davantage?
J'ai l'impression que c'est beaucoup le discours intérieur. Tu sais, souvent,
les petites voix.
La manière qu'on va se parler à nous-mêmes. Puis j'avais parfois tendance à être rough et assez dure dans mes paroles envers moi-même, pas envers les gens autour de moi. Fait que ça, tranquillement, ça a été long à changer. Mais ça fait toute une différence de la manière qu'on se perçoit, la manière qu'on se parle, parce que la petite voix dans notre tête, elle fait beaucoup plus de bruit qu'on pense.
C'est tellement vrai ce que tu dis là, puis je suis convaincu que les gens, athlètes de pointe ou non, peuvent faire un paquet de références à leur propre vie.
Ouais.
Mais c'est des réflexes acquis depuis l'enfance, ça, des mauvais réflexes là, de se passer au cash quand on n'est pas fier de nous autres.
Exactement.
Hein?
Tu sais, en étant, que ça soit dans le sport, les comédiens, les humoristes, n'importe quel personne, tu sais, qu'on est dur envers soi-même, des fois, il faut faire attention à ce qu'on se dit, parce qu'apparemment, le subconscient, ça peut l'atteindre.
Tu dis apparemment, mais ton sourire me dit qu'il y a du vrai là-dedans.
Oui, il y a du vrai là-dedans.
Il y a du vrai. L'entraînement, qu'est-ce que tu détestes le plus à l'entraînement?
Moi, je dirais que je suis... C'est pas pour me lancer des fleurs, mais je suis une machine d'entraînement. J'aime l'entraînement. Ce matin, c'était ma préparation physique à la boxe. J'aime ça, mon sparring, tout ça. Ce que j'aime moins, je dirais, c'est la course. Le jogging, c'est un peu c'est un peu plus une corvée d'aller le faire, mais je le fais parce que c'est super efficace. Mais moi, j'aime ça souffrir. J'aime ça quand on sue, quand il fait chaud, quand mon cœur est à 190. J'aime pas ça quand c'est long, longtemps.
qu'est-ce que tu préfères? C'est un peu ça, ce que tu viens de me dire là, ou il y a un aspect, le fun d'un camp d'entraînement?
Le camp d'entraînement, c'est quelque chose. Je suis née pour être en camp d'entraînement. Ça m'organise, ça me donne une bonne discipline. Je me lève le matin, ma journée est bien dictée. J'aime ça faire du sparring, ça c'est sûr. Faire des pads avec Daniel, ça c'est vraiment comme la petite rire sur le Sunday. J'adore ça. Sinon, quand on fait des intervalles sur le sac en force, ça c'est quelque chose que j'adore.
Alors, Kim, jeudi, j'espère, je sais pas s'il reste des billets pour ce gala-là au casino.
44 billets.
Tu suis ça,
moi, je suis business, je suis ça.
Parle-moi de ça. Fait que d'après moi, après l'entrevue de ce soir, il en restera plus bien.
Non, je pense qu'on va y aller.
Puis sinon, c'est via le groupe
Yvon Michel ou Ticketmaster.
Ticketmaster. Jeudi soir prochain au casino, je pense que les gens vont vraiment être contents de te revoir sur le ring. Je te souhaite la plus belle performance possible de retour, puis que tu reprennes ça, là, puis qu'on reparle de combat de championnat le plus tôt possible.
Merci beaucoup pour l'invitation. C'était toujours un grand plaisir d'être avec toi.
Merci beaucoup, Kim. Je te dis bonne chance et à très bientôt.
Merci.
Salut, coach Daniel.
Salut, dame.
Elle était pas loin. C'était Kim Clavel avec nous.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. au réseau Cogeco. Vous écoutez les amateurs de sport.
Nous voilà de retour. Oui, bon point pour la personne qui nous a envoyé la question. Il y avait une nuance quand même. C'est que quelqu'un qui avait été repêché en première ronde par le Canadien et qui avait joué contre le Canadien pour les Nordiques, mais dans la LNH. Et Réjean a joué contre le Canadien, mais non, il a joué dans l'AMH avec les Nordiques, pas contre le Canadien, évidemment. Et Marc Tardif aussi, mais c'était un choix de deuxième ronde. Donc, Michel Place est le seul à avoir été repêché en première ronde et joué contre les le Canadien dans la Ligue nationale de hockey.
Décevant.
On est avec Alain Choquette. Alain, on a parlé de baseball tout à l'heure. Et Pierre, tu voulais nous amener sur un gars qui est très, très coloré, controversé de Ligue nationale. Je sais pas si des fois... C'est vrai que tout le monde qui le connaît de proche pense, nous disent que c'est un bon gars. John Tortorella, t'as-tu de la misère avec toi? Aurais-tu aimé ça, travailler comme gérant d'équipement, tu penses, avec un gars comme Torts?
Ben, après avoir parlé avec son staff, là, à Columbus, puis partout où est-ce qu'il passe, les gars l'adorent. Les gars l'adorent. Je me rappelle à Columbus, le gars me disait, la première journée qu'il fait une journée off... Le lendemain, il revient, puis il demande au gars d'équipement, au gars de médical, « Pierre, qu'est-ce que vous avez fait de bon? » Ben, hier, on est venu ici, puis on a fait ci, puis on a fait ça. Il dit, « Non, non, on dit à l'avenir, là, une journée off, c'est une journée off pour tout le monde. » Il dit, « Vous restez chez vous, faites ce que vous voulez, mais vous venez pas à l'aréna. À moins que ça soit absolument extraordinaire. » Fait que, tu sais, ce gars-là, c'est une énigme pour moi, dans ce sens que je sais que c'est un bon gars, puis Steph va dire, va renchérir là-dessus. Je l'ai rencontré à quelques occasions, il est super fin, super gentil. Puis d'autres moments, moi, je me rappelle une fois à Vancouver aux Jeux olympiques, on jouait la finale pour la médaille d'or en après-midi. Et puis, contre les États-Unis, puis John, c'était le coach. Puis, il me connaissait, on se connaissait, puis on n'avait jamais pas de problème. Je rentre dans le gym. Il était sur le vélo stationnaire, là. Écoute, il m'a regardé, là, un loup. Les yeux, là. Tu sais, j'ai fait un sourire, me l'a dit, tu niaises-tu ou quoi, là? Puis il était vraiment sérieux, là. Je voulais pas aller plus loin, puis sauter dans la face. Tu sais, mais c'est comme...
Il était dans sa zone de match, là, puis t'étais un adversaire?
Écoute, moi, ben, c'est ça. Tu sais, moi, regarde, mais il était en habillé de hockey USA. Moi, c'était Team Canada, mais je sais pas, je suis pas un game changer dans une game.
Ouais, mais il sait que t'es d'une gang qui a déjà fait mesurer un bâton en finale de la Coupe Stanley, là.
J'ai pas d'affaire là-dedans, ouais.
moi, j'ai tout aimé, John. Torchetti, Tortorella, Torchetti.
Il existe, John Torchetti, par exemple.
Ben oui, je sais, c'est un de mes bons amis. On a coaché ensemble. On a gagné la Coupe à Chicago ensemble avec John Torchetti. Mais Tortorella, moi, écoute, je l'ai rencontré souvent dans des meetings de l'Association des coachs de la Ligue nationale. Et puis, c'était un des bons gars de la gang des coachs. Et puis, moi, on m'a tout le temps dit une affaire. Les joueurs qui font la job, là, qui travaillent fort, puis qui suivent les directives, puis ils suivent le plan de match, puis là, ils n'ont jamais eu de trouble avec John Tortorella. Jamais. Ceux qui ont du trouble, c'est ceux qui trichent. C'est ceux qui font pas la job. C'est ceux qui se traînent les pieds. C'est ceux qui veulent pas jouer de la façon que lui, il veut. Eux autres, ils ont du trouble avec Torch. Fait que j'aime son honnêteté, son cran de pouvoir dire, peu importe t'es qui, si tu fais pas le job, tu joueras pas. Et ça prend du cran. Parce qu'il y a des coachs qui l'ont ce cran-là, justement avec des joueurs de troisième et quatrième trio ou des recrues. Mais ils n'ont pas le cran de le faire avec les meilleurs joueurs. Puis ça, c'est la plupart des coachs. Lui, il a le cran
bon
de le faire.
Très bon point.
Et puis, autre chose avec John Tortorella, il est capable de mettre ses torts. J'ai aimé cette semaine, au début de la semaine, quand il s'est excusé à son gardien de but substitut, Felix Sandstrom. Felix Sandstrom, dimanche passé, il joue contre les Panthers. Les Flyers dominent le match, mais perdent 4-2, quelque chose de même. Felix Sandstrom a eu un match très difficile. Il a seulement 17 lancés. Il a eu un match très difficile. Et après le match... quand la presse a parlé de Felix Sandstrom, il a refusé de répondre et il est parti. Et puis en voulant dire, regarde, il était pourri. Le message était, il était pourri, puis peut-être la raison pourquoi qu'on a perdu. Mais le lendemain, il s'est excusé premièrement aux journalistes, dire c'est une question légitime, j'aurais dû répondre. Et j'ai pas été correct, mais je suis excusé à mon gardien de but ce matin. Parce que je l'ai mis en dessous du boss, en dessous de l'autobus. Puis j'ai eu tort de faire ça. J'ai été émotif et je m'excuse parce que le gars travaille fort à tous les jours pour nous faire gagner. Et j'étais allé voir mon gardien de but, je m'excuse. Donc, il est capable de ça aussi. Fait que moi, j'adore Torch dans toute dans toutes ses facettes.
Écoute, il y a une sensibilité. Une couple d'années, là, il avait manqué quelques jours parce que le chien familial était décédé ou était malade. Tu te rappelles ça?
Oui, je me rappelle.
Fait que, tu sais, ça prend du cran, ça, encore une fois, pour un coach, pour dire, là, tu sais, c'est pas pour, comme Martin Saint-Louis, c'était son gars, là. Tu sais, le chien familial, mais pour lui, c'est important, puis c'est peut-être ses enfants et tout ça, là, puis...
Non, mais de la manière qu'il a parlé de Martin cette semaine, c'était très touchant.
Oui.
Le témoignage qu'il a fait.
Aussi, aussi.
Tu sais, ça a l'air comme d'un bon père de famille.
Mm-hmm. Mais, qui est ton coach préféré, Alain Choquette, du Canadien des 25 dernières années, mettons, ou depuis Jacques Demers?
Aïe. Ben, écoute, moi, Jacques Demers, j'ai eu la chance de jaser, de parler avec lui, puis j'aimais la philosophie de bon papa qu'il était, puis probablement que c'était lui. C'est le premier qui me vient en tête. Là.
Fait que je vais être obligé de te demander le deuxième, parce que ça peut être une esquive aussi. Mais Jacques, on l'aime tous. T'as raison, il y a une place spéciale dans nos cœurs. Dernier coach d'un club canadien va gagner la Coupe. Mais mettons, après, entre Mario... Michel Therrien, Claude Julien,
Alain Vigneault,
Carbeau, Alain Vigneault.
Moi j'ai beaucoup.
Bob Gainé, Martin Saint-Louis, Randy Cunningworth.
Il y en a eu. Moi j'ai beaucoup aimé Alain Vigneault. Puis j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait quand il a perdu son emploi, puis qu'il est retourné faire
dans le junior,
puis recommencer. Puis j'aimais derrière le banc, c'était un gars qui criait beaucoup. Hein. On entendait sa voix tout le temps.
Oui,
j'ai beaucoup aimé Alain Vigneault.
C'est
beaucoup,
vrai.
Beaucoup. Et ouais, c'était un que tu me fais penser
bon,
à lui.
Okay, c'est bon ça.
Ouais, c'était un bon choix.
C'est un bon choix.
Alain, sa première année qu'il a coaché à vie, c'était avec les Travers de Trois-Rivières. J'étais son entraîneur de gardien de but. Et je me souviens de sa petite voix, là.
Quand il jouait, il y avait la même voix, là.
Ouais, un gros gars.
C'est un bon gros bonhomme.
Un gros gars avec une petite voix de même.
C'était un bon joueur d'hockey.
Tout ce qu'il a, tout j'ai bu, toi.
C'était un bon joueur.
C'était un défenseur, mais il était tough.
Il a joué quelques games avec les Blues.
Oui.
Il était tough, il avait pas froid aux yeux, Alain.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport pour les fidèles du sport.
Il y aura bientôt un an que le nouveau commissaire de la LHJMQ, Mario Cecchini, est entré en fonction. Il vient de compléter sa première saison régulière en tant que commissaire. Et ce soir, c'est le début de la vraie saison des séries éliminatoires. On a le commissaire avec nous en studio. Bonsoir, Mario.
Bonsoir, Mario. Comment vas-tu?
Ça va très, très bien. Écoute, t'as un beau sourire. Donc, je vois que t'as pu te décanter de tout le débat concernant là, l'utilisation de l'anglais français dans la LHJMQ à la suite des salves qui sont venues du chef de l'opposition ou d'un des partis d'opposition, M. Saint-Pierre Plamondon, peut-être un prochain premier ministre. Mais comment as-tu accueilli toute cette controverse-là au sujet de la photographie des chandails en anglais là, des voltigeurs de Drummondville? Ça a été ça l'élément déclencheur.
Oui, ben permets-moi d'abord, on va rentrer dans le vif du sujet. Ben ça a été, évidemment, c'est jamais des journées plaisantes, sauf que tu me donnes l'occasion un peu pas de rectifier le tir, parce que j'excuse pas Drummond, c'est pas ça le point, puis l'équipe l'a reconnu elle-même. Mais je fais une distinction entre la Ligue et les clubs. Faut d'abord comprendre, pour les auditeurs, que une Ligue, c'est une Ligue, on gère la Ligue, le marketing de la Ligue dans son ensemble. On gère pas les 18 clubs. Fait que ça, c'est juste une mise au point. C'est pas une excuse, là, c'est une mise au point. On a des règles, on a des directions, mais on veut que chacun y aille de sa propre créativité. Ça, c'est une chose. Je veux rassurer tout le monde, s'il y a des doutes, que tout ce qui est, toutes les communications qui sont pour le public, pour les citoyens, pour les consommateurs, ça a toujours été en français. S'il y avait des erreurs de ce côté-là, on l'a reçu bien avant aujourd'hui. Il faut comprendre que les équipes arrivent dans une période d'effervescence, puis ce fameux T-shirt-là, c'est pour rassembler le monde. Ils ont fait l'erreur, ça va être bilingue, c'est bilingue partout. Ceci étant, je vais en profiter par contre, Mario, je suis content que tu me donnes l'occasion d'entrer de jeu, parce qu'après ça, on pourra parler hockey. Ceux qui connaissent un peu le parcours, ça j'ai toujours été très, très, très proche de franciser et de s'assurer que le Québec était respecté partout où j'ai passé. J'ai travaillé dans des compagnies pan-canadiennes, fait que toute ma vie, j'ai eu à faire ça. Quand je suis arrivé à la Ligue, exemple, puis je veux vous donner des exemples concrets, parce que ce que je veux pas qu'il reste dans l'imaginaire collectif, c'est que la LHJMQ se fout du français, c'est absolument pas vrai. Je vais vous donner des exemples que vérifiables. première chose que j'ai vue, puis des fois, ça prend des yeux neufs juste pour voir ces petites choses-là. Au bas des gilets de toutes les équipes des trois ligues, c'est marqué CHL à Lando, Canadian Hockey League. L'année prochaine, ça va être marqué LCH sur les gilets du Québec. Parce que si des T-shirts, on se rend compte qu'il n'y a rien qui est anecdotique quand on parle de notre langue avec raison, ben quand j'ai vu ça, ça m'a frappé. Fait que là, l'année prochaine, ça va être marqué LCH.
Même les clubs des Maritimes?
Les clubs des Maritimes, ça va être CHL. Donc, okay. les clubs qui sont dans leur marché anglophone,
ça va être LCH.
Mais au Québec et à Bathurst, où la majorité est francophone au Nouveau-Brunswick, ça va être LCH. OK?
D'accord.
Ensuite, je vais parler de l'Assemblée des membres, parce qu'on a tous vécu la situation où il y a un anglophone à la table, puis il y a cinq Québécois. Moi, des meetings de même, j'en ai vécu à tonnes, puis tout le monde s'exprime en anglais. Ben dans nos assemblées de membres, il y a quand même un bon nombre, pourcentage de membres. Je parle de l'assemblée des propriétaires.
Des propriétaires gouverneurs.
Tout ça passe en français.
T'as des traducteurs?
Tout ça passe en... On a un traducteur, mais la personne francophone qui
s'exprime en français.
Moi, je m'exprime en français. Alors, ça se déroule, si on veut, en français, avec un traducteur. Fait qu'il y a personne qui a pensé dans sa seconde langue. Fait que c'est toujours des communications qui sont plus efficaces. Écoute, je pourrais poursuivre, là, mais des exemples de cette nature-là, concrète. T'sais, l'année passée, repêchage à Sherbrooke, diffusé seulement dans les... télédiffusé seulement dans les Maritimes. J'ai pas changé de discours. Ils m'ont entendu parler en français 95% du temps pendant les 2h30 que la première ronde a duré. Fait que le français à ligue, là, je peux pas du tout laisser passer ou laisser sous-entendre au bureau de la Ligue. Puis au bureau de la Ligue, c'est à Boucherville, tout se passe en français.
Et il y en a beaucoup qui sont stupéfaits d'apprendre que les journées d'entraînement ou les séances d'entraînement puis le quotidien de beaucoup de joueurs se passent en anglais également. Mais là, bon, ils sont en retard dans les nouvelles. Puis je dis pas que c'est correct ou pas correct. Je dis que c'est comme ça fait très longtemps. Même dans le Midget 3A, je sais qu'il y a des entraîneurs qui dirigent en anglais, toujours avec, bon, prétexte peut-être qu'il fait pas l'affaire de tout le monde comme réponse, de préparer pour la suite. C'est sûr qu'on ne fait pas juste préparer des prochains joueurs de la Ligue nationale. Non. C'est une minorité qui y vont. Fait qu'il y a peut-être lieu de discuter là, mais j'ai reçu des jeunes en studio, des anglophones, des maritimes qui viennent jouer dans les marchés québécois et ils parlent français.
Tu sais, le Spencer Gill, qui vient du Nouveau-Brunswick.
Ben, je l'ai reçu en studio.
Qui est à Rimouski, qui profite d'une expérience québécoise très, très forte. C'est tellement une fierté. Fait que je veux juste... Moi, je comprends qu'est-ce qui est arrivé. Je comprends très bien même qu'est-ce qui s'est passé. Ça va être corrigé. L'équipe l'a reconnu. Après ça, on va aller de l'avant. Puis si la commission, parce que M. Robert, j'ai mentionné hier qu'il était pour interpeller la commission de la langue française, on va répondre à leurs questions. J'ai jamais refusé de répondre à une question, puis on va répondre à leurs questions.
Dans le tweet du chef du Parti québécois, tu sentis quelque chose qui était directement dirigé envers toi, en ce sens qu'il y a un nouveau commissaire, on change de nom, puis ça parle en anglais, le LHJMQ, comme si c'était une pression de la minorité anglophone de la Ligue. As-tu senti que c'était une attaque directe au nouveau commissaire?
Hey, tu me poses une question. C'est à lui qu'il faut la poser. Mais Mario, j'espère que non. J'espère que non, honnêtement. Au niveau francophone, là, puis peut-être que les gens savent pas, mais je vais donner d'autres exemples, parce que chez les Alouettes, exemple, j'étais... quand je suis arrivé, les adresses courriels, c'était Montréal Alouette. C'est montrealalouettes.com. Ça avait été fait comme ça. J'ai changé ça pour Alouette de Montréal. J'ai demandé aux arbitres d'aller canadienne, bilingue, de parler en français quand ils annoncent les pénalités à la foule. Je me suis battu avec TSN pour pas le nommer. Ils voulaient pas au début, c'était compliqué, ça retarderait le match. Aujourd'hui, ils le font. Le jeton pour pile ou face avant le match, le premier jeton francophone marqué Ligue canadienne de football, c'était fait en 2022. Quand je suis arrivé à Télétoon en TV, le logo francophone, j'ai mis des accents aigus. C'est l'histoire de ma vie de franciser ça. Fait que si c'est personnel, je vais prendre pour acquis que M. Plamondon, effectivement, a bien d'autres dossiers à gérer, puis est peut-être pas au courant de ma passion pour ça, de franciser ça. Fait que j'espère que c'est pas personnel en ce sens-là. Le changement de nom, bien ça, je l'ai expliqué souvent, Mario, puis on peut y revenir pour 30 secondes. Mais pour moi, c'est une question de respect. des fans. Puis là, je dis fan, c'est pas un mot anglais, c'est une abréviation de fanatique. Alors, on a 25% de nos partisans qui sont dans les Maritimes. La Ligue nationale de hockey, la Ligue canadienne de football, a, dans les deux cas, environ 8 millions de consommateurs, donc une minorité qui est francophone dans le territoire de leur ligue. Ils ont un logo franco. Je pense qu'on l'apprécie, ça, nous autres, de pouvoir lire LNH, de pouvoir lire LCF sur le gilet des Alouettes. On l'apprécie, ça. Moi, j'ai toujours me battu pour être inclus.
Dans la peau de l'autre.
Là, pour la première fois de ma vie, je me retrouve dans la peau du majoritaire. Puis il y avait une conversation qui durait depuis 15 ans. Tu sais, ça a été documenté. Puis les équipes étaient... ça a été un vote unanime. C'est important de dire ça parce que les 12 équipes québécoises qui représentent leurs partisans aussi, il n'y a pas eu de débat sur le nom. Puis on a trouvé un nom pour justement garder Québec parce que tu sais comme moi que la tentation, ça aurait été facile de dire la Ligue de l'Est parce qu'il y a la Western Hockey League. Ça aurait été facile de dire ça.
Oui,
c'est le premier nom qui est venu sur mon bureau. Ça a été un nom immédiat.
Si jamais vous avez un club des États-Unis, il va falloir changer de nom une autre fois?
Non, non, non. Ça, je l'ai dit. Je pense qu'il y a une majorité. Ça prend un bloc. Puis je pense que 25%, c'est bien. Ça se représente. Puis il fallait respecter les partisans qui nous supportent là-bas. Puis écoute, c'est le changement de marque de commerce le moins cher que j'ai jamais fait. Puis on l'a fait parce que c'est les LHMQ est resté. Puis tu sais, je disais, ça va devenir comme BMW, comme IBM. Des fois, il y a des gens même qui savent. Si je demande aux jeunes aujourd'hui que veut dire IBM, je suis pas sûr qu'ils peuvent me répondre. Mais la marque est forte. Puis nous, ce qu'on veut mettre de l'avant comme marque, c'est LHJMQ. Puis justement, ça finit avec Québec. Le son à la fin, il est fort, puis il est très présent. Mm-hmm. Moi, c'est comme ça que je le vis, puis c'est toujours comme ça que je l'ai présenté.
Sais-tu qu'après avoir entendu cette entrevue-là, M. Saint-Pierre Plamondon va peut-être t'offrir de te présenter pour le PQ dans une circonscription dans quelques années après ton mandat comme commissaire de la LHJMQ?
Je veux juste que ça soit clair, puis moi, j'ai même dit hier soir, j'aimerais ça aller m'asseoir, tu sais, j'aimerais ça aller m'asseoir avec lui, puis jaser. Il a peut-être pas le temps, puis je respecte ça, mais c'est sûr qu'à un moment donné, je veux pas rester sur la notion que la LHJMQ se fout du français, je ne pourrais jamais accepter ça.
Bon, pas tout à fait un an comme commissaire. Quel bilan fais-tu de la première saison régulière que tu as vécue dans ce poste-là, Mario?
Écoute, ça, c'est le fun. Alors ça, là, c'est un peu incontournable, Mario, je pense, de commencer par le règlement, parce que je suis rentré dans la finition, si on veut, du règlement de bagarre. Fallait bien l'écrire, fallait que les équipes comprennent. Premièrement, je suis tellement fier des DG, puis des entraîneurs qui ont su ajuster les plans de match autour, qui ont su inculquer aux jeunes le nouveau règlement. Fait qu'on est passé de 106 bagarres à 32. J'inclus, pour ceux qui vont aller vérifier le site web, les matchs pré-saison. Alors, je pense que sur 612 matchs, ça veut dire une bagarre par 6 matchs. On est rendu à une bagarre par 20 matchs. Alors, je pense qu'on a atteint l'objectif du jeu robuste, parce qu'à l'intérieur des règles, il y a assez de place pour être robuste puis faire réfléchir l'adversaire une seconde de plus. Il y a de la place pour ça, les bons coups d'épaule. Tout le monde apprécie ça. Puis évidemment, il y avait deux volets que les gens nous parlaient quand ils nous disaient « Ceux qui n'aimaient pas ça, faites attention, il va arriver quoi? Il va arriver peut-être moins de monde. » Ben écoute, on a atteint notre chiffre mythique de 2 millions de spectateurs, 2 millions 45 000, 5% j'arrondis de plus que l'an passé.
Même si c'était pas une grosse année pour les Remparts, qui ont quand même des belles foules, même s'ils sont au début d'un nouveau cycle, c'est ça qui est étonnant.
1,6% d'augmentation de foule pour les Remparts.
Hey, c'est
alors
solide,
c'est
hein?
Pas la même saison. Y a même des gens qui me disaient « Patrick va partir, c'est tout un ambassadeur, wow. Pensez-vous ». Le hockey junior est bien installé à Québec, c'est fort. Puis on est reculé, Mario, parce qu'on sait comment c'est un défi de vendre des billets maintenant post-COVID, dans tous les domaines. Fait qu'on s'est permis d'aller comparer en 2019, parce que là, 3 semaines, on a comme dépassé 2019. Puis on est à 1% de plus que la foule de 2019, mais on va le prendre.
Ben oui.
Ça, c'est très, très satisfaisant. Puis évidemment, les suspensions, ben, il y en a moins que l'année passée. Donc, je pense que les joueurs apprennent. Si on est encore au niveau apprentissage, on le sait, ils apprennent à se protéger, ils apprennent à frapper. Des fois, tu as des suspensions puis c'était pas ton intention du tout, mais nous, on est à ce niveau-là. Alors, on a Éric Chouinard, notre
préfet de discipline, en quelque sorte.
Préfet de discipline qui prend le temps d'expliquer aux joueurs aussi. Puis il y a toute une éducation là-dedans. Fait que je suis très content de ça. Fait que ça a commencé à la saison. Le changement de nom, on a parlé. Puis évidemment, l'autre gros changement qui frappe...
Moins de matchs à partir de la saison prochaine, en saison régulière. Donc, un petit peu plus d'air pour respirer. Mario Cecchini, le commissaire de la LHJMQ, est avec nous en studio.
Les amateurs de sport.
C'est 23.